François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, on vous connaît sur Radio Shalom, nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah, vous êtes également professeur associé à Sciences Po, mais ce soir, c'est l'écrivain que nous recevons, car vous signez votre tout premier roman, Deux étés 44, Metz 1744, Drancy 1944, c'est aux éditions Stock, c'est un roman qui sort très exactement aujourd'hui en librairie. Alors, ce roman, c'est l'histoire d'une famille juive française qui va nous faire découvrir un pan de l'histoire de France absolument inconnu, comment un médecin juif a sauvé le roi Louis XV à Metz. Le roi se meurt, ce cri résonne le 15 août 1744. C'est un été très chaud dans le palais du gouverneur de la ville de Metz. En chemin pour la guerre contre les Autrichiens en Alsace, Louis XV se trouve aux portes de la mort, des saignées, des purges inutiles. Ses médecins l'ont abandonné, son aumônier le force à se confesser publiquement, ses maîtresses sont bannies, sa cour s'enfuit, les saints sacrements lui sont administrés, mais en trois jours, Louis XV sera sauvé par un médecin inconnu. D'ailleurs, Michelet dit que c'est un empirique. Alors, que fait d'abord Louis XV à Metz et de quel mal souffre-t-il ?
Louis XV, en fait, déclare la guerre aux Autrichiens en 1744. Il se bat dans les Flandres et les Autrichiens en profitent pour envahir l'Alsace, quoi, rentrer en Alsace. Donc Louis XV se précipite vers l'Alsace, il passe en Lorraine et Metz est la grande place forte à l'est de la France, et il passe ses troupes en revue, il reste 4 jours, il est accompagné, comme vous l'avez dit, de ses deux maîtresses, la duchesse de Châteauroux et la duchesse de Lauragais, qui sont deux sœurs par ailleurs, avec qui il dort toutes les nuits de manière très, très festive. Et puis, il tombe malade le 8 août 1744 d'un mal étrange, et ses médecins vont le soigner, comme on le soignait à l'époque, surtout les médecins de la cour, à coups de purge et de saignement. Et pendant une semaine, ils vont le purger, saigner, ce roi vigoureux de 34 ans, dans la force de l'âge, très en forme. Et au bout d'une semaine, il va être déclaré quasiment comme mort.
Alors, il est à Metz. La communauté juive de la ville accueille le roi par une magnifique cavalcade qui m'a d'ailleurs autant surpris en vous lisant que le roi de France.
Tout à fait. Le roi de France ne connaissait pas vraiment les juifs, puisque les juifs étaient interdits à Versailles ou à Paris. Par contre, les Juifs, depuis 1595, ont le droit de citer dans la ville de Metz, et c'est une communauté importante de 400 familles, presque 2000 membres. Ils ont leur quartier réservé, ils ont leur syndic, ils ont leur rabbin, et les grands rabbins sont très réputés, les médecins aussi. Et quand ils apprennent que le roi va venir à Metz, ils proposent au maréchal de Belle-Île, qui est le gouverneur de Metz, de faire une cavalcade, c'est-à-dire un défilé à cheval pour le roi. Alors, il y a deux compagnies de jeunes juifs qui défilent devant le roi, ainsi qu'un char de triomphe à la gloire du roi, de la reine et du dauphin. Et donc, le 5 août 1744, 200 juifs vont défiler devant le roi, et le roi est très impressionné. La cour aussi, qui ne connaissait pas les juifs, sont très impressionnés par le beau maintien et la belle tenue de cette troupe héritière d'un peuple antique.
Oui, en vous lisant, c'est incroyable. Hein. On imagine les couleurs, on imagine le défilé. Vous évoquiez les maîtresses de Louis XV, deux sœurs. En fait, le roi de France conjugue au presque parfait, lui, les 7 péchés capitaux. Hein.
Ah oui, complètement. Et en plus, c'est deux sœurs qui sont filles du comte Mailly-Donnel. Et le comte Mailly-Donnel avait 5 filles très jolies, mais vraiment très jolies. J'ai vu des portraits de l'époque très jolies. Et Louis XV a été l'amant de 4 d'entre elles. Et la 5e a refusé ses avances.
Oui, parce que c'était l'ami de la reine, exactement. Alors, c'est le maréchal Belle-Île, vous l'évoquiez, qui a présenté au roi la cavalcade dont on a parlé, et qui va amener à son chevet un médecin juif, mais personne ne doit être au courant, car la cour est traversée par deux courants, je dirais, antagonistes et qui s'opposent, le parti des dévots et celui des libertins.
Tout à fait. Alors évidemment, le roi est plutôt dans le parti des libertins. Son apporteur de femmes, si on peut dire ça comme ça, c'est le duc de Richelieu, qui en fait inspira même Valmont pour le personnage des Liaisons dangereuses de Laclos, et du Richelieu, donc, lui amène, c'est un peu le proxénète du roi, il lui amène différentes maîtresses, et effectivement, c'est le parti du libertinage, et le libertinage était très en vogue à l'époque. Par contre, de l'autre côté, il y a le parti des dévots, ceux qui soutiennent la reine, une partie de la cour, et surtout deux évêques, l'évêque de Soissons et l'évêque de Metz, et qui vont profiter de la maladie du roi pour ancrer leur emprise sur le roi, parce qu'évidemment le roi mourant se tourne vers l'Église pour que l'Église le protège, et la cour reprend du pouvoir, la cour, notamment la cour proche de la reine qui veut chasser les maîtresses et qui réussit à chasser les maîtresses. Et évidemment, c'est compliqué d'amener un médecin juif, bien que très réputé, parce qu'il descend d'une grande lignée de médecins. Son père était même médecin du duc de Palatin, qui est une principauté d'Allemagne très importante. Et donc, c'est vraiment un médecin érudit, connu. Et donc, comment faire pour emmener un médecin juif auprès d'un roi qui est cerné par les dévots et les évêques?
Oui, et d'ailleurs, les dévots et les évêques vont obliger le roi à s'amender publiquement, à se confesser publiquement. Ça, c'est une chose incroyable. Et il va même, le roi, jusqu'à promettre, s'il est guéri, d'édifier une basilique pour sa guérison.
Tout à fait. Le roi dit comme mon aïeul Louis XIV a construit un monument à sa gloire, Versailles, moi je veux construire un monument à la gloire de Dieu, si Dieu me sauve. Et donc il projette de construire la basilique Sainte-Geneviève, en haut de la montagne Sainte-Geneviève, avec le projet que ce soit la plus haute basilique de France et sur une basilique qui surplombe tout Paris.
Alors, dans votre livre, heureusement qu'à la fin, il y a l'arbre généalogique, parce qu'il y a beaucoup de noms, il faut suivre les filiations. Et je le disais, l'histoire d'une famille juive française. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de votre famille, François Heilbronn.
Oui, vous dévoilez toute la vérité. En fait, le médecin qui sauve le roi, le docteur Isaïe Serfoulman, était mon ancêtre direct. Alors lointain, évidemment, puisqu'on est en 1744, lui, il est né en 1705, près de Strasbourg, et un père juif médecin de Metz. Il s'appelait le docteur Isaïe Serfoulman, donc c'est mon ancêtre direct à 8 générations. C'est donc l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de ma grand-mère, donc c'est vraiment effectivement très loin. Mais ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai appelé ce roman « Deux étés 44 », c'est qu'en écrivant cette première partie sur l'été 1744, à un moment donné, j'avais vraiment l'envie que d'écrire cet été de 1744 et comment des Juifs à Metz, une communauté organisée, structurée, et en fait très à la pointe du judaïsme en France à l'époque, arrivaient à être dans l'entourage du roi et à sauver le roi de France. C'est la seule histoire que je voulais raconter. Et puis à un moment donné, j'écris 18 août 1744. Et quand j'écris sur la page blanche, 18 août 1744, la date me saute aux yeux, mais vraiment me saute aux yeux, et je vois 18 août 1944. Et le 18 août 1944, mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, Henri Klotz, lieutenant-colonel de réserve, héros de 14-18, officier de la Légion d'honneur à titre militaire, croix de guerre, chef d'entreprise, écrivain, est en train d'agoniser et de mourir dans une annexe de Drancy, à l'hospice Rothschild, où on mettait les vieillards malades. Il avait été arrêté le 31 juillet, il n'a pas été déporté, parce que c'est le jour du départ du dernier convoi, il est envoyé à l'hospice Rothschild, et il va mourir le 18 août 1944. Et comme un signe, quelque part, 18 août 1744, son aïeul sauve le roi. 200 ans plus tard, ces juifs patriotes français intégrés qui ont bien servi la patrie se voient arrêter dans le Paris occupé de l'été 1944. 8 membres de sa famille, ses filles, son frère, ses neveux et nièces, sont arrêtés le 11 et 12 juillet 1944. Ils vont être déportés sans retour, ils vont être assassinés à Auschwitz-Birkenau. Ils vont être déportés par le convoi 77, le dernier grand convoi parti de Paris, parti de la gare de Bobigny, le 31 juillet 1944. Donc j'ai eu envie de raconter ces deux étés, en fait deux étés de contraste. Un de l'espérance et l'autre de la tragédie.
Ouais, et c'est un peu aussi l'histoire du judaïsme français, non ?
Complètement. Complètement, c'est l'avantage de raconter ce roman et cette histoire à travers ce prisme familial, personnel, mais aussi historique, puisqu'il y a beaucoup de personnages historiques dans ce roman. Mais c'est aussi une manière de raconter effectivement ce judaïsme français, patriote, républicain, qui a découvert la liberté et l'émancipation en 1791, qui s'est énormément intégré à la France. Dans cette famille, il y a des députés, des ministres, des chefs d'entreprise, des écrivains, beaucoup de patriotes, beaucoup de héros de guerre morts à la guerre, aussi bien en 14-18 qu'en 39-45. Et toute cette grande tradition-là du judaïsme français, du franco-judaïsme, qui est trahi par le régime de Pétain et de Laval, qui est persécuté par à la fois la collaboration française et évidemment par les Allemands, et qui est sacrifié et qui est assassiné, puisque 15 descendants du docteur Ullmann, de ma famille, vont être assassinés à Auschwitz-Birkenau et à Buchenwald.
François Heilbronn, deux étés 44, Metz 1744, Drancy 1944, c'est aux éditions Stock, ça sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom et on vous souhaite le meilleur pour ce premier roman.
Merci Pierre et merci pour votre lecture incisive et intelligente.